son esprit danse. Celui qui danse chemine sur l'eau et à l'intérieur d'une flamme. Que tu n'aies pas une peau, que tu te sois tapé science faux, pas de problème, viens au bistrot, tu y trouveras ce qu'il te faut. Si la terre te colle aux godasses, pas de raison de perdre la face, viens avec nous, viens au bistrot, tu y trouveras ce qu'il te faut.
Est-ce que parmi vous, tout le monde connaît, enfin parmi vous, est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas la chasse au dahu parmi vous? Alors la chasse au dahu, c'est un truc qui se fait la nuit, en général quand il pleut, voire quand il fait très froid, c'est donc vers 2-3 heures du matin, jamais avant. Ça se passe un peu dans les collines ou dans la montagne, mais enfin il faut qu'il y ait un minimum de collines, parce que le dahu c'est un animal un peu étrange, qui a deux pattes plus courtes que l'autre, parce qu'il marche sur les collines comme ça. Alors il a deux pattes courtes et deux pattes longues. Vous voyez le genre. Bon. Et vous ne pouvez rencontrer les dahus que la nuit. Donc en général, on vous réveille à 3h du matin en fanfare pour aller chercher le dahu. En général, il pleut, il fait froid, etc. Et puis évidemment, ça dure très très longtemps. Hein, c'est à 50 km, c'est toujours très loin. Bah oui, parce qu'il ne va pas se montrer à tout le monde quand même. Bon, alors, le délice de la Duprie, c'est ça. Vous emmenez quelqu'un à la chasse au dahu, et après, quand la personne a enfin compris que ça n'existe pas un dahu, parce que vous imaginez quand il se retourne, quand il a enfin compris que ça n'existe pas un dahu, quand vous regardez sa tête, évidemment, il a l'air couillon. Hein. Et alors, vous avez tous les gens autour, méchants, teignes et tout ça, qui éprouvent le délice de la Duprie. Voilà. Alors, le délice de la Duprie du mensonge, c'est la chasse au dahu.
Fais la cuisine, dans les petits plats, nos six boulots, ce qu'on nous cerne, c'est comme il faut.
S'enivrer, mais de savoir, s'abreuver, mais de connaissances, se griser, mais de questions. Voilà ce que vous proposent les moines de l'abbaye du Jouir.
Que ce soit de l'économie, du virtuel, de l'astronomie, c'est qu'on n'est pas des rigolos, on apprend tout dans nos bistrots. C'est pas le diplôme qui nous motive, ce qui nous sert de locomotive, c'est d'être ensemble et bien plus beau grâce à cette université des bistrots.
Ils reçoivent aujourd'hui en leur bistrot, pour le plaisir de tous, l'ami Claudine Bilan.
Ma jolie danse, 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 mon esprit danse, celui qui danse chemine sur l'eau et à l'intérieur d'une flamme.
Bon, alors c'est à moi, il paraît. Alors donc, on va parler ce soir, comme nous l'a dit votre hôte, enfin quelques-uns d'entre vous, du développement durable, non, je dis des conneries, du mensonge. Alors, je me présente un peu pour que vous ayez une idée à peu près précise de ce dont on va parler, parce qu'après tout, le mensonge, on peut en parler de 50 millions de manières. Moi, je suis docteur en psychologie, et en particulier en psychologie sociale. Ah non, ça c'est pas... Oh, j'ai pas amené mon diplôme. J'ai pas fait comme Rachida Dati, non. Alors, la psychologie sociale, c'est, pour aller très très vite, une psychologie qui s'intéresse d'abord à... Il faut qu'il y ait au moins deux individus, hein, et à tout ce qui est de l'ordre de l'influence. Alors, ça veut dire comment moi, je m'influence moi-même grâce à des processus cognitifs, à des processus psychologiques, etc. Comment moi, je vais influencer les autres, et Dieu sait si on le fait, et comment les autres m'influencent, moi, dans la vie. Et tous les processus, c'est aller un peu vite, hein, en besogne que de raconter et de raccourcir les choses comme ça, mais ça correspond quand même à ce qu'on fait en psychologie sociale. Et moi, je fais de la recherche en psychologie sociale, c'est-à-dire que j'ai des sujets expérimentaux dans des beaux laboratoires. Et les sujets expérimentaux qu'on a, en général, ce sont des étudiants. Hein, il faut le savoir. Donc ça veut dire que on travaille sur une population un petit peu partielle, mais bon, il nous arrive aussi quelquefois de travailler sur des populations ordinaires, on va dire. Mais tout ce dont je vais vous parler ce soir, donc, rentre dans ce cadre-là. C'est-à-dire que les recherches dont je vais vous faire des comptes rendus, s'il y en a quelques-unes, elles rentreront dans ce cadre-là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le mensonge est une thématique qui, en psychologie sociale en tout cas, a été lancée essentiellement dans les années 70 à peu près par les Américains, comme d'habitude. Et parce que, pour deux raisons à mon avis, une première essentielle qui est qu'aux États-Unis, il y a le détecteur de mensonges, comme vous devez le savoir, et le détecteur de mensonges et les résultats du détecteur de mensonges font partie, c'est une des pièces maîtresses importantes dans un procès, notamment dans des procès criminels. Ça veut dire que grâce au détecteur de mensonges, qui soit dit en passant ne détecte rien, en tout cas pas le mensonge, il détecte les émotions, mais pas le mensonge, grâce à ce détecteur de mensonges, on envoie des gens éventuellement à la chaise électrique. Donc il y a des psychologues qui se sont dit quand même, ça serait bien qu'on essaye de contrecarrer un peu ce système, qui est un système un peu inique et unique, et qu'on travaille un petit peu sur d'autres choses que simplement la détection d'émotions, parce que bon, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Il faudrait qu'on propose, donc, ce sont dit ces psychologues, autre chose que ce détecteur d'émotions. Or, on sait que les émotions, ben, y en a des positives, il y en a des négatives, et le détecteur de mensonges, eh ben, il ne précise rien du tout, il ne dit pas si ce qu'il y a... Vous savez, le détecteur de mensonges, c'est un graphe. Hein, on vous prend un certain nombre de on mesure la pression artérielle, on mesure la réponse électrodermale, on mesure les battements du cœur, on mesure la respiration, etc. etc. Et puis, on vous pose un certain nombre de questions, du genre, quel jour sommes-nous, vendredi, bon. Vous êtes né à Marseille, oui, bon, ça tombe bien. Vous avez un mari, tant d'enfants, etc., oui. Puis tout d'un coup, au milieu, on dit à la personne, est-ce que vous avez tué votre grand-mère hier soir ? Alors j'imaginais bien que quoi qu'il arrive, et quoi que vous ayez fait, il va y avoir des machins comme ça qui vont s'exciter sur le papier. Et à partir de ça, bon, je caricature un peu, hein, parce que je suis marseillaise, donc j'ai une tendance à la caricature. Et puis imaginez qu'on vous pose cette question-là, il y a au moins deux solutions. Soit vous avez tué votre grand-mère, soit vous ne l'avez pas tuée. Et dans la deuxième solution, vous avez de la peine aussi éventuellement. Donc ça peut déclencher un certain nombre d'émotions. Donc je caricature un peu, mais à peine. Voilà ce que détectait le détecteur de mensonges. Donc ces psychologues, dans les années 70, se sont dit, on va essayer de travailler sur autre chose. Alors sur le verbal, c'est bien, mais on sait que le mensonge, par excellence, déclenche des émotions. Donc on va travailler sur quelque chose qui est plus visible de l'émotion, et c'est sûrement pas le langage, parce que le langage c'est ce qu'on contrôle à la limite le mieux, nous les grands primates, hein. On va travailler sur quelque chose qui est plus qui justifie plus de la présence d'une émotion, et c'est sur le comportement non verbal. Donc tout ce dont je vais vous parler ce soir aussi, ça sera de recherches qui sont faites à partir du comportement non-verbal des gens, non-verbal et paraverbal. Alors le non-verbal, ben, c'est tous les gestes que nous faisons, hein, quand on parle, quand on s'anime, quand notre visage s'anime, etc. Et le paraverbal, c'est tout ce qui sort de la bouche et qui n'est pas des mots. C'est-à-dire la tonalité de votre voix, la fréquence fondamentale. La fréquence fondamentale, c'est cette espèce de fréquence moyenne que chacun a et possède, qui est la sienne et qui est comparable sous la pression d'une émotion, justement. C'est les pauses quand on parle, c'est les hésitations, c'est les comme ça, les raclements de gorge, les déglutitions, etc., etc. Donc tout ça, c'est le paraverbal. Et puis tout le non-verbal, eh ben, c'est tout ce que vous pouvez imaginer comme non-verbal, que ce soit facial ou corporel. Parce que il y a des distinctions à faire aussi là. C'est-à-dire que il y a des éléments de notre individu qui sont reliés directement au siège, au pluriel, au siège des émotions dans le cerveau. C'est la voix. Et c'est donc pour ça que la voix est un catalyseur très très important pour détecter le mensonge. C'est tout ce qui est visage jusqu'aux épaules, donc y compris les épaules. Tout ça, c'est relié directement au siège des émotions dans le cerveau. Et le corps, lui, ne l'est pas. Donc ça veut dire que vous allez avoir des marqueurs de l'émotion qui vont se voir à travers les expressions du visage, votre voix, et beaucoup moins à partir de votre corps. Mais alors la contradiction extraordinaire de la nature humaine, c'est que la nature humaine, faire très attention à son visage, et donc elle ne va pratiquement rien montrer avec son visage. Par contre, elle ne va pas faire attention à tout ce qui est de l'ordre du corporel, et là, elle va montrer plus de choses, alors que c'est beaucoup plus difficile de contrôler le visage que de contrôler le corps. Et puis sur la voix, eh ben, elle ne va pas pouvoir faire grand-chose, parce que d'abord et d'un, parce qu'on n'entend pas notre voix comme les autres l'entendent, et puis que d'autre part, il y a ce relais direct avec les sièges des émotions dans le cerveau qui vont faire qu'on ne va pas pouvoir se contrôler là-dessus, sauf une partie de la population qui quand même arrive à très très bien se contrôler. Alors, on va revenir un petit peu sur des choses plus générales. Donc, sans mensonge, la vie serait insupportable, c'est pour ça qu'on ment tout le temps. On va essayer ensemble de comprendre pourquoi, sans mensonge, la vie serait insupportable et pourquoi on ne peut pas toujours dire la vérité. Alors, on va faire des distinctions entre la vérité et sa vérité à soi. Et ce n'est pas tout à fait pareil. Il me semble qu'on est à une époque où le mensonge est un sujet qui intéresse beaucoup de gens, qui passionne même beaucoup de gens, parce que on est à une époque où, à juste titre ou pas, on pense que on nous doit la vérité, et donc à l'inverse, que nous devons la vérité aux autres. Pour aller plus vite, on va dire qu'on est dans une époque où on réclame ce que les soviétiques, pendant un temps, ont appelé la glasnost, et ce que nous appelons d'ailleurs tranquillement la transparence. On demande aux gens, aux politiques, aux industriels, à plein de monde, on leur demande d'être transparents, c'est-à-dire de dire la vérité. C'est comme ça qu'on définit la transparence. Mais il faut qu'on distingue, en tout cas dans la vie quotidienne, sans parler de nos relations avec nos dirigeants ou avec nos grands industriels ou je sais pas quoi, mais dans notre vie quotidienne, il faut que nous fassions attention à ne pas mélanger la sincérité, l'honnêteté avec la vérité. Ça n'est pas tout à fait pareil. On oppose souvent l'honnêteté, la sincérité au mensonge, alors que ça n'est pas tout à fait la même chose. Je m'explique. À l'opposé du mensonge, il n'y a pas la sincérité et l'honnêteté. À l'opposé du mensonge, il y a la vérité des faits, la vérité des opinions et la vérité des émotions. On peut tout à fait être sincère en mentant. On en reparlera peut-être un petit peu tout à l'heure, mais dans le détail, et si ça vous intéresse. Mais en tout cas, ça justifie largement que le mensonge soit une activité humaine quotidienne, permanente, et que nous ayons un minimum d'indulgence aussi pour cette activité humaine, parce que nous le pratiquons tous. Alors, le mensonge est quand même condamné. Il est condamné parce que c'est la transgression d'une règle morale. C'est à ce titre-là qu'il est condamné. Dans le mensonge, il y a au moins deux individus, un bourreau, le menteur, et une victime, la cible du mensonge. D'autre part, nous apprenons très tôt à nos enfants à dire la vérité, et on leur apprend très tôt que c'est pas beau de mentir. Et pourtant, dès qu'ils sont petits, avant même qu'ils possèdent le langage, ils mentent. Et pourquoi ? Entre autres, parce qu'ils nous voient mentir. Les enfants, il faut savoir qu'ils sont très sensibles à tout ce qui est de l'ordre du non-verbal. Et pour cause, ils possèdent pas le langage. Donc il commence à posséder le langage à peu près vers 3 ans. Et donc ça veut dire qu'un enfant, s'il a besoin de juger est-ce que cette personne-là est sincère ou pas, il fera beaucoup plus confiance au non-verbal qu'au verbal, puisque le verbal, pour lui, ça reste quand même quelque chose d'un peu flou, d'un peu vague. Et nous mentons très très vite et très très tôt devant nos enfants. Par exemple, alors vous allez me dire, c'est bien et c'est normal. Ouais, enfin, en attendant, quand on a 2 ou 3 ans ou 4 ans, on ne fait pas la différence. Quand Tante Suzanne amène à votre tête blonde à Noël un livre rempli d'écriture où il n'y a pas une image et que votre tête blonde attendait une Game Boy, s'il fait une tête que vous allez pressentir d'ailleurs, une tête de 6 pieds 6 pouces, vous allez le pousser pour lui dire « Oh, mais qu'il est joli ce livre qu'elle t'a amené, Tante Suzanne. Fais un gros bisou à Tante Suzanne. Qu'est-ce qu'elle est gentille, Tante Suzanne. » C'est bien ce que vous faites tous. Bon. Donc, que personne ne me dise qu'il n'a jamais forcé son enfant à mentir. Alors, mentir comme ça, vous allez me dire, mais c'est normal, on est des gens polis, corrects, honnêtes, pas de problème. Effectivement, vous êtes des gens parfaitement polis, bien élevés, tout ce qu'il faut. Mais en tout cas, être bien élevé, ça veut dire mentir. Et ça, très très vite. Donc, on apprend à nos enfants que c'est pas beau de mentir, mais on leur apprend aussi à mentir très très vite. Et puis, il y a de nombreuses fois où nos enfants nous voient mentir et où ils nous débinent et où on est un peu emmerdé. Par exemple, quand ils font les courses avec maman et que maman achète une robe à 400 euros et qu'elle rentre le soir en disant à son mari qu'elle l'a payée 150, nos enfants en général disent « Mais non maman, tu l'as pas payée 150 euros, tu l'as payée 400 euros. » Voilà. Donc, ils nous voient mentir, on leur demande de mentir pour être poli, mais en attendant, on leur apprend que c'est pas beau de mentir. Parce qu'effectivement, c'est une règle morale qui est transgressée et c'est embêtant. Alors, d'autre part, pour finir un petit peu ce panorama sur le mensonge, je voudrais préciser quelque chose qui a son importance, enfin deux choses qui ont leur importance, c'est que le mensonge que nous condamnons tous très fort et très violemment, en général, on l'associe souvent à la religion aussi. Or, le mensonge ne fait pas partie des 7 péchés capitaux. Je ne parle que de notre religion dominante qui est la catholique. Mais le mensonge ne fait pas partie des 7 péchés capitaux et le mensonge ne fait pas partie des 10 commandements. Et puis, si on doit parler des autres religions, je me suis un peu renseignée, c'est pareil, hein. Par contre, si dans les 10 commandements, on nous dit qu'il ne faut pas faire de faux témoignages. Alors c'est très intéressant parce que le faux témoignage, c'est effectivement le mensonge le plus nuisible. C'est-à-dire un faux témoignage, ça peut mener quelqu'un à la potence. Enfin, plus chez nous, mais dans d'autres pays, oui. Et avant, ça pouvait mener quelqu'un à la potence. Maintenant, ça ne les mène plus à la potence, mais ça peut quand même les mener en prison. Donc, le mensonge le plus nuisible est condamné par notre religion dominante catholique. Et puis c'est tout. Mais elle ne fait pas partie, je le répète, des 7 péchés capitaux, ni des 10 commandements, contrairement à ce qu'on croit. Bref, mentir, c'est pas bien. Mais pourtant, nous mentons tous et toutes, et plusieurs fois par jour. Pour se rendre compte de cette façon qu'on a de mentir et du nombre de mensonges que nous émettons chaque jour. On a une petite expérience qui est dite écologique. Enfin, une petite expérience, elle n'est pas petite, elle est grosse, puisqu'elle concerne des centaines de personnes, qui est une expérience dite écologique, c'est-à-dire qui est faite à partir du quotidien des gens. Elle a été faite par des Américains et elle a été faite de la manière suivante. On a demandé à des étudiants, ils étaient, je ne sais plus, 700, 800, un truc comme ça, de remplir un petit carnet, un petit journal, pendant une semaine. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait de la recherche sur le mensonge, mais pas que sur le mensonge, le plus gros menteur, c'est le chercheur, hein. C'est-à-dire que le chercheur ne dit jamais ce qu'il cherche. Pour la bonne et simple raison que s'il dit ce qu'il cherche, il ne va pas le trouver. Parce que la personne qui est en face, donc le sujet expérimental, va s'adapter à notre demande, puisqu'en général, les sujets expérimentaux, donc ce sont des étudiants, en échange, ils ont souvent des crédits de formation, des crédits de universitaires, c'est-à-dire une partie de leurs examens, qui est validée comme ça. Donc nos étudiants vont vouloir nous faire plaisir. Et pour nous faire plaisir, ils vont aller dans notre sens. Donc on ne leur dit jamais ce qu'on cherche. Et surtout pas quand on cherche le mensonge. Donc ces chercheurs ont fait ce que nous faisons tous et toutes. C'est-à-dire qu'ils ont demandé à ces étudiants de remplir ce petit journal pendant une semaine et d'y noter quotidiennement toutes leurs interactions. Une interaction étant entendue comme un échange avec une autre personne supérieure à 10 minutes. Et puis, les chercheurs ont dit, et puis, bon, vous les marquez toutes, hein, vos interactions, et si jamais, par hasard, vous mentez, eh ben vous le notez aussi. Ah, tiens, de bonnes blagues. Parce qu'en fait, c'était ça qu'ils cherchaient, hein, le reste, ils s'en foutaient complètement. Hein. Donc, si vous mentez, vous le marquez, vous dites pourquoi vous mentez, à qui vous avez menti, et ce que vous avez obtenu comme résultat, c'est-à-dire est-ce que votre mensonge est passé ou pas. Et on se rend compte, donc, à l'issue de cette recherche-là, que nos braves étudiants, sujets expérimentaux, volontaires, annoncent qu'ils mentent 2 fois par jour. Ils l'annoncent. Hein. Vous imaginez bien que, à mon avis, ça doit être bien plus que ça. Et que dans à peine 20% des cas, leur mensonge est détecté. À peine 20% des cas, je crois que c'est 18% des cas. Donc voilà comment on peut dire que nous mentons au moins 2 fois par jour. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette recherche montre aussi que c'est dans le milieu familial que les mensonges sont les moins fréquents, que c'est au début des relations amoureuses que les mensonges sont plus fréquents, 10 par jour avoués. Ensuite, c'est même au sein du couple qu'il y a le moins de mensonges. Donc soyez rassurés. Oui. Alors pour la bonne et simple raison que, d'abord, on ne peut pas émettre 10 mensonges par jour comme ça, c'est fatigant, hein, pendant une vie entière. Et puis, pour une bonne et simple raison, c'est que les gens se connaissent, apprennent à se connaître et connaissent aussi ce qu'on appelle les idiosyncrasies, c'est-à-dire les tics, les manies des uns et des autres, qu'elles soient verbales ou qu'elles soient non verbales. Donc, au sein du couple, on va se risquer beaucoup moins quand même aux mensonges. Et c'est au travail qu'on ment le plus fréquemment, avec le plus de tranquillité possible. Et puis, on va faire tomber un stéréotype épouvantable. Non, les femmes ne mentent pas plus que les hommes. Alors, non seulement nous ne mentons pas plus que vous, mais en plus, par contre, quand nous mentons en général plus entre femmes et nous choisissons, nous, le mensonge altruiste, pendant que les hommes choisissent plutôt les mensonges égoïstes. Une petite précision là-dessus, il y a 3 raisons égoïstes pour lesquelles nous mentons, enfin nous mentons pour 4 raisons. Et si vous cherchez un petit peu dans les jours qui viennent à déblayer un peu vos propres mensonges, vous verrez qu'ils rentrent tous dans ces catégories-là. Il y a donc 4 raisons pour lesquelles on ment, 3 raisons qui sont égoïstes et une raison qui est altruiste. Ça ne fait pas beaucoup, je vous l'accorde. Alors la première raison pour laquelle on ment, c'est pour donner une... Enfin la première raison, il n'y a pas hiérarchie. Hein. C'est pour donner une bonne image de soi ou pour conserver auprès des autres l'image qu'on pense qu'ils ont de nous. Par exemple, si c'est l'époque du baccalauréat, moi j'ai vu ça il n'y a pas très longtemps, dans mon entourage c'était assez rigolo, à l'époque du baccalauréat, c'est dire que nous, quand on a passé le bac, on a eu le bac avec mention bien. Si on nous demande incidemment comme ça, et toi t'as eu quoi comme mention à ton bac? Moi j'ai eu mention bien. Et puis en fait c'est pas vrai évidemment, donc c'est pour donner par exemple cette bonne image qu'on souhaite donner de soi. Ou pour conserver l'image qu'on pense que les gens ont de nous. Par exemple, si les gens dans votre entourage professionnel sont persuadés que vous êtes un très très gros bosseur, vous allez prétendre être resté au travail dans la semaine 3 fois jusqu'à 8 heures, alors que vous êtes parti comme tout le monde à 6h05, pendant que les autres sont partis à 6h. Donc, première raison, donner une bonne image de soi. c'est, vous me l'accorderez, une raison égoïste. Deuxième raison, obtenir un avantage. Obtenir un avantage, donc, c'est, par exemple, tricher sur son CV pour obtenir un boulot. C'est quelque chose de très, très courant et qui choque en général pas les gens. Quand on leur dit, est-ce que vous trouvez que c'est grave de tricher sur son CV? Alors, encore plus les Américains que nous, mais les Américains, à 80%, ils disent, oh, non, pas grave, c'est normal. Et est-ce que vous l'avez déjà fait? Oh, oui, bien sûr. Hein. Bon. Donc ça, c'est pour obtenir un avantage, c'est pour obtenir un boulot ou prétendre être capable de faire je ne sais pas quoi. Bon. Donc deuxième raison, vous m'accorderez que c'est aussi une raison égoïste. Troisième raison, éviter un conflit, une punition quand on est un enfant, un conflit ou une rupture quand on est un adulte. Vous m'accorderez que là aussi, c'est une raison égoïste. Et puis quatrième raison, la seule qui soit altruiste, c'est pour faire plaisir ou ne pas faire de la peine. Donc c'est l'histoire de Tante Suzanne tout à l'heure, donc rassurez-vous, quand nous apprenons à nos enfants à mentir avec Tante Suzanne, c'est un, parce qu'on est bien élevé, et deux, parce que c'est de manière altruiste, c'est pour faire plaisir à Tante Suzanne qui s'est fendue d'un joli livre où il n'y a pas une image. Donc voilà les raisons pour lesquelles nous mentons.
Pas de problème, viens au bistrot, tu y trouveras ce qu'il te faut. Si la terre te colle aux godasses, pas de raison de perdre la face. Viens avec nous, viens au bistrot, tu y trouveras ce qu'il te faut. Danse ma jolie danse, 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 mon esprit danse. Celui qui danse chemine sur l'eau et à l'intérieur d'une flamme.
Que... Claudine Bilan.
Alors maintenant, on va essayer de donner quand même un peu une définition de ce mensonge. Alors c'est une définition qu'on appelle nous opérationnelle, c'est-à-dire que c'est une définition qui nous permet à la fois de correspondre à quelque chose qui existe dans notre vie courante, mais qui est aussi contrôlable en laboratoire. Hein. Donc le mensonge, pour moi en tout cas, et le mensonge comme on l'opérationnalise dans nos recherches de laboratoire, il a cette définition-là. C'est-à-dire donc, que le menteur a une intention délibéré. Donc le mensonge, c'est un acte intentionnel. Et il a l'intention délibérée d'abuser d'une autre personne, sans donner le moindre avertissement, et sans que la victime lui ait demandé d'agir ainsi. Et le menteur connaît la vérité, il a le choix de la dire ou pas. Alors, de ceci, de cette définition, ça veut dire qu'on exclut, par exemple, le malade qui dit au médecin « Non, 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 s'il vous plaît, si j'en ai plus que pour 3 mois à vivre, vous ne me le dites pas. » On peut admettre que le médecin qui mentira à ce patient ne mentira pas au sens de cette définition-là, puisque la victime lui aura demandé d'agir ainsi. On peut admettre aussi qu'un vendeur qui ne sait pas qu'un prix a baissé ne trompe pas la personne à qui il veut vendre son frigidaire 1000 euros alors que normalement il en vaut plus de 800, parce qu'il ne sait pas, parce qu'il l'ignore. Donc le vendeur qui aura cette activité-là sera exclu de notre définition aussi. Et puis d'autre part, sur le choix de la dire ou pas, on peut admettre qu'un résistant, par exemple, qui ne trahit pas ses camarades, n'a pas franchement le choix de la dire ou pas. Alors que ce soit un résistant ou que ce soit des choses encore plus lourdes que ça. Par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, les Anglais avaient réussi... Enfin, il y avait un officier allemand qui s'appelait Schmidt, tout simplement, qui avait été très déçu par l'Allemagne nazie et qui avait choisi de rejoindre le camp adverse. Et donc, qui donnait des tas de renseignements aux Alliés, donc aux Anglais, aux Français, etc., et en particulier aux Anglais. et qui avait réussi à leur faire connaître le moyen de décrypter le système Enigma, qui était un système, le système Enigma, c'était un système informatique avant l'heure, qui permettait aux Allemands de s'échanger des données. Et donc les Anglais savaient qu'il y avait la possibilité très très forte que Coventry soit rasé par les Allemands, que c'était l'intention en tout cas des Allemands. Le problème qui se posait à Churchill et aux autres, c'était si on fait évacuer Coventry, les Allemands vont se rendre compte qu'on est au courant et ils vont se demander comment on est au courant. Et donc, toutes les informations que nous pourrions avoir par ailleurs, on ne les aura plus. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a le choix ou pas? On peut penser... Alors, évidemment, ils n'ont pas fait évacuer Coventry et 80% de la population civile a été tuée quand même, il faut le savoir. Est-ce qu'on peut dire qu'ils avaient le choix de la dire ou pas, cette vérité, ou enfin de la reconnaître ou pas, cette vérité, de manière implicite? On peut penser que non. Voilà. Donc voilà un petit peu les gens qui sont exclus de cette définition. Évidemment, les gens qui ont des problèmes psychologiques lourds hein, et qui se prennent pour Napoléon ou je sais pas quoi, ne font pas partie non plus de cette définition, bien entendu. Alors, tout à l'heure, on parlait de distinguer la sincérité de la vérité. Je voudrais y revenir un petit peu parce que ça me paraît très important. Quand je vous ai dit on peut mentir en étant sincère, je le crois. C'est-à-dire qu'être franc, ça ne veut pas forcément dire la vérité. Par exemple, si je n'aime pas la robe rouge que porte une de mes amies et que je lui dis « Oh là là, qu'est-ce qu'elle te va pas bien cette robe rouge, elle te grossit, elle est moche, elle te va pas au teint, blablabla. » Je ne vais pas forcément dire la vérité. Je vais être franche, mais je ne vais pas dire la vérité parce que ma camarade qui sera derrière moi, elle trouvera peut-être que ma copine Martine, elle a une très jolie robe rouge et qu'elle lui va très bien. Donc, être franc, être sincère avec ses propres opinions, ça ne veut pas forcément dire la vérité. Ça veut dire sa vérité. Par contre, on peut mentir en étant sincère, c'est-à-dire que, par exemple, si pour ne pas perdre une famille ou des amis, vous choisissez de mentir parce que ce qu'il y a de plus important pour vous et que votre sincérité à vous, c'est de ne pas perdre cette famille ou de ne pas perdre ses amis, la sincérité existe, même si vous utilisez du mensonge, pour arriver à ces fins-là. Donc je crois qu'il faut bien distinguer l'honnêteté, la franchise, qui ne s'oppose pas forcément au mensonge. Ce n'est pas forcément le contraire du mensonge. Pour moi, le contraire du mensonge, c'est la vérité des faits. Ici, ce soir, je suis avec vous dans le Morvan et si je dis le contraire, je vais mentir. C'est la vérité des faits. Il y a la vérité aussi des sentiments que l'on porte aux autres ou à soi-même. Et il y a la vérité aussi des opinions. Voilà. Donc je crois que c'est très important de distinguer ça pour pouvoir comprendre la démarche que, en tout cas, nous, on a vis-à-vis du mensonge. Alors, pour quelles raisons ment-on ? On les a signalées tout à l'heure, je vous les ai signalées. Il y en a quatre grandes raisons pour lesquelles on ment. Et ça veut dire, en définitive, qu'on ment pour gagner quelque chose. Et ça, ça paraît important. Même dans le mensonge altruiste, par exemple, hein, il y a trois raisons qui sont égoïstes, une raison qui est altruiste. Même dans le mensonge altruiste, on peut penser qu'il y a quelque chose à gagner. Je m'explique. Quand vous mentez de manière altruiste très très souvent, vous gagnez une espèce de paix sociale autour de vous. Vous avez beaucoup d'amis. Les gens qui sont très menteurs ont beaucoup d'amis, ont des réseaux très très importants d'amis. Et donc avoir des amis... Est-ce que c'est pas quelque part, pour quelqu'un pour qui c'est important bien entendu, et en général c'est important pour tout le monde parce qu'on a tous l'instinct grégaire autant que je me souvienne, est-ce que c'est pas un petit peu égoïste quand même? Donc même la raison altruiste, elle n'est peut-être pas si altruiste que ça. Le mensonge c'est une activité humaine Et elle est en ce sens très intéressante à étudier quand on est psychologue social comme moi ou comme d'autres. C'est une activité très humaine parce qu'elle nous ramène à ce que nous sommes, c'est-à-dire de pauvres êtres humains, mais aussi de merveilleux êtres humains. De pauvres êtres humains, c'est-à-dire que nous ne sommes pas des demi-dieux, ni des dieux complets. Nous sommes pleins de failles et pleins de défauts. Et pour colmater ces failles et ces défauts, il nous faut utiliser, entre autres, le mensonge. Donc ça nous ramène à quelque chose de très modeste vis-à-vis de ce que nous sommes, c'est-à-dire vis-à-vis de ce qu'est la nature humaine. La nature humaine, ça, c'est quelque chose de compliqué, de contradictoire, et puis qui a besoin, de temps en temps, eh ben, d'artifices, de subterfuges comme le mensonge pour pouvoir exister normalement. Hein. Nous ne sommes pas des demi-dieux, loin de là. Et tant mieux. Alors, pourquoi choisir le mensonge plutôt que la vérité ? Eh bien, parce que, donc, dire la vérité risque de me faire perdre quelque chose. C'est l'inverse de ce qu'on vient de signaler à l'instant, c'est-à-dire que quand je mens, je risque de gagner quelque chose. Si je dis la vérité, je risque de perdre quelque chose. Et donc, je vais mettre ça dans la balance, et c'est comme ça que je vais décider si je choisis de mentir ou pas. Perdre quelque chose, c'est quoi ? Ben, par exemple, si je discute avec mon chef de service et que celui-ci prend fait et cause pour les sans-papiers et que je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui, je ne vais sûrement pas lui dire que je ne suis pas d'accord avec lui ou pas du tout d'accord avec lui. Pourquoi ? Ben, parce que, je ne sais pas, dans 6 mois... Il y a un poste qui m'intéresse, qui va s'ouvrir dans l'entreprise et que je n'ai pas forcément envie de me fâcher avec lui à ce moment-là. Donc je ne vais pas forcément lui donner mon opinion à ce sujet parce que je pense que je risque de perdre quelque chose. Donc c'est comme ça qu'on établit la frontière entre le mensonge et la vérité et entre le choix qu'on va faire de mentir ou pas. C'est en se disant qu'est-ce que je risque de perdre et qu'est-ce que je risque de gagner en mentant ou en disant la vérité. Comment mentons-nous ? De quelle manière on fait ? Comment ça se passe concrètement ? On ment de 2 manières, soit par omission, soit par falsification. La première version, l'omission, c'est ce qu'il y a de plus simple. Alors l'omission, ça consiste à ne rien dire. Ou à omettre de dire une partie de la vérité. C'est la façon la plus simple dont on peut mentir, parce que il y a peu de chances pour que ça se voie sur notre visage ou que ça s'entende sur notre voix. Par falsification, et bien c'est la falsification à la fois de faits, d'opinions, de sentiments, mais c'est aussi la falsification des émotions que nous allons ressentir. C'est-à-dire que nous allons faire... Nous allons fabriquer, et ça très tôt, on va le voir après, on va fabriquer des fausses vraies émotions. C'est-à-dire qu'on va tenter de faire en sorte que sur notre visage se lisent des émotions qui sont contraires à ce que l'on pense. On va les fabriquer. Donc on falsifie à la fois le discours, ce que l'on dit, la raison pour laquelle on ment, les opinions, les sentiments sur des faits, etc. Et on va falsifier aussi notre comportement non-verbal pour faire croire que ce qu'on dit, c'est la vérité. Par exemple, si on n'est pas joyeux du tout, on va quand même se forcer, comme on dit dans la vie, à présenter un visage joyeux alors qu'on n'a pas du tout envie de rigoler, par exemple. À partir de quel âge mentons-nous ? Alors, on a vu tout à l'heure que nous apprenons très tôt à nos enfants à mentir. Il faut savoir que nos enfants arrivent à mentir avant même de savoir parler. C'est-à-dire que, par exemple, quand c'est ce qu'on appelle les larmes de crocodile. Hein, quand nos enfants trouveraient beaucoup plus amusant de rester dans le salon à regarder la télé, qui est une superbe chose qui nous fait beaucoup poiler, qu'on leur demande d'aller se coucher et qu'ils nous font un cinéma de tous les tonnerres parce qu'ils ne veulent pas aller se coucher, et qu'ils laissent couler, c'est-à-dire pas couler du tout sur leur visage ces larmes de crocodile, ils mentent. Hein. Ils nous font croire qu'ils sont très tristes, qu'ils sont très peinés. Et puis après, il y a les mensonges qu'on arrive, nous, à contrôler en laboratoire. Alors, en laboratoire, on fait une expérience qui s'appelle, qui est un paradigme très ordinaire de la psychologie sociale, qui s'appelle le jouet interdit. Alors on met des enfants dans un labo avec des glaces sans teint tout autour et avec des caméras pour les filmer. Et tout autour du labo, sur les murs qui font l'ensemble de la pièce, il y a des tas de jouets. Il y en a plein. Et au milieu, il y a un jouet qu'on appelle un jouet interdit. On dit aux enfants, voilà, tu vas rentrer dans la pièce, tu vas avoir le droit de t'amuser avec tous les jouets qu'il y a. Mais celui qui est au milieu, évidemment, c'est le dernier jouet à la mode, inutile de vous le dire. Tu n'as ni le droit de le regarder, ni le droit de le toucher. Évidemment, inutile de dire qu'ils vont tous soit regarder le jouet, soit y toucher. Bon. Et après, ils sortent et on leur dit, alors, qu'est-ce que t'as fait ? Tu l'as regardé le jouet ? Tu y as touché ? À 3 ans, 90% d'entre eux regardent le jouet, 38% l'avouent. 38% à 3 ans. Hein. Donc ça fait quand même qu'il y en a 62% qui ne l'avouent pas. Hein. Hein. Bon. Alors si on les titille un peu, quand même ils finissent à 3 ans par se laisser impressionner. Ils sont impressionnés par les adultes, donc ils finissent quand même un petit peu par l'avouer. Mais si vous faites que, alors tu l'as regardé le jouet, 62%. Bon. À 5 ans, 100% regardent le jouet, 0% l'avouent. À 9 ans, pareil, évidemment, 100% le regarde, 0% l'avoue, mais à partir de 9 ans, ils font quelque chose de très très joli, c'est qu'ils fabriquent, de vraies fausses émotions comme un adulte. Vraiment, comme un adulte en montrant une dextérité d'adulte. Hein. Alors on sait, depuis Piaget, donc ça remonte à hein, l'empèbre, comme on dit chez moi, on sait qu'à partir du moment où un enfant est capable de faire la différence entre le bien et le mal, ça veut dire que, donc à partir du moment où il a acquis ce qu'on appelle les réflexes moraux de tout individu humain normalement constitué, à partir de ce moment-là, il sait faire la différence entre ce que c'est que le mensonge et la vérité. Et on sait depuis Piaget qu'à partir de 3-4 ans, ils savent. Donc voilà ce que sont capables de faire nos enfants. Donc voilà à partir de quel âge ils savent mentir. Et de manière quand même forte, hein, 62% des 3 ans ne l'avouent pas, hein, quand même, je vous rappelle. Est-ce qu'il y a des bons mensonges et des vilains mensonges ? Alors ça, c'est une question difficile. On a parlé tout à l'heure des mensonges altruistes. Donc les mensonges altruistes, c'est ce qu'on appelle les mensonges pieux dans le langage courant, ce que les anglo-saxons appellent les mensonges blancs. C'est les mensonges donc faits pour faire plaisir ou ne pas faire de la peine. Et on a vu que c'était quand même pas si évident que ça, que ce soit si altruiste que ça. Mais bon. Et puis, il y a les vilains mensonges. Alors là, les vilains mensonges, chacun doit déterminer ce que c'est pour lui, les vilains mensonges. Alors, pour moi, un vilain mensonge, c'est un mensonge qui nuit à quelqu'un. Donc, un mensonge nuisible, c'est un mensonge condamnable. On en reparlera peut-être un petit peu plus tard, mais ce type de recherche, elle mène en fait à, enfin pour l'instant, entre autres, elles permettent de travailler, si tant est que la justice veuille bien travailler avec nous, elles permettent de travailler un petit peu dans le domaine de la psychologie judiciaire. Donc effectivement, un faux témoignage, c'est quelque chose de très lourd, de très nuisible, de très grave, et qui peut entraîner des choses, des conséquences très importantes. Donc on va dire que pour nous, chercheurs, voilà où nous avons mis la limite. Alors après, dans la vie courante, dans la vie quotidienne, vous tous, vous avez, on va dire, une échelle de mesure de 0 à 10. C'est ce qu'on appelle le niveau moral de chacun. Chacun se place sur cette échelle à un endroit ou à un autre. Et c'est selon l'endroit où il va se placer sur cette échelle, donc le seuil moral de chacun qui déterminera pour vous, un mensonge nuisible, c'est tel ou tel type de mensonge. Il n'y a pas de règle immuable en la matière, c'est un petit peu chacun qui déterminera. Alors il est clair que, si vous me demandez mon opinion, je vous la répète, pour moi un mensonge nuisible, c'est un mensonge qui nuit à l'autre, qui nuit à autrui, qui va entraîner autrui dans quelque chose de profondément négatif, y compris lui piquer son boulot. Hein. Alors, pour en finir un petit peu sur ces menteurs, en tout cas sur cette, avant de vous laisser la parole, on va voir un petit peu ensemble ce qui fait qu'on est un bon menteur, et à contrario, ce qui fait qu'on est un mauvais menteur. Alors, un bon menteur, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui a une excellente mémoire. Inutile de vous détailler pourquoi. Hein. Si vous prenez les pieds dans le tapis, vous êtes mal barré. Hein. Alors donc, il faut avoir une très très bonne mémoire. Il faut avoir des qualités de communicant excellentes, c'est-à-dire être un extraverti. Hein. On va citer les Tapie. Voilà. Bernard Tapie. Hein. Comme ça, ça donne une idée un petit peu à tout le monde. Il faut avoir du talent pour gérer ses émotions, parce qu'on a vu tout à l'heure que les émotions provoquées par le mensonge aller provoquer des fuites comportementales. Donc, il faut savoir gérer correctement ses émotions. Donc, il y a des émotions positives et négatives hein, dans le mensonge. Il y a deux émotions négatives et une émotion positive. Les deux émotions négatives, c'est la peur de se faire prendre, de se faire choper, d'être détecté, et la honte. La honte étant dérivée de la culpabilité que nous ressentons à mentir, puisque le mensonge est une transgression d'une règle morale. Mais il y a des gens qui ont, sur cette échelle du seuil moral, un seuil moral très très bas. Donc il y a des gens pour qui la honte va pas beaucoup intervenir, la peur de se faire prendre, pas beaucoup non plus, parce que pour eux c'est un tel challenge de tromper autrui qu'ils sont contents. Alors donc ça, c'est, on va dire, pour le citoyen lambda normal, la peur et la honte. Ça, c'est les deux émotions négatives. Et puis, il y a une émotion positive qui est ce qu'on appelle le délice de la duperie. Alors donc, on a trois émotions du menteur. Donc, pour les citoyens lambda, hein, deux émotions négatives et une émotion positive. Et puis, pour les citoyens qui ont le seuil moral un petit peu bas, eh ben, ça peut être que des émotions positives. Voilà. Donc, vous imaginez, par exemple... Adolf Hitler rencontre Chamberlain pour la dernière fois, pour une ultime négociation de la part de Chamberlain, juste avant qu'Adolf Hitler envahisse la Tchécoslovaquie. Il a donc une dernière négociation avec lui. Il n'était évidemment pas seul, vous savez, ils ont tous beaucoup de conseillers, ces gens-là. Et donc, dans le bureau, il y avait des conseillers d'Adolf qui étaient là avec Neville Chamberlain. Et donc, la discussion s'engage, etc. Adolf Hitler prend son ton, que vous lui connaissez sûrement, d'homme outragé, parce qu'il était très, très fort pour jouer l'homme outragé. Il était très, très balèze. Donc, il prend son air outragé en disant comment, vous m'accusez de vouloir envahir l'Europe, qu'est-ce que c'est, etc., etc. Bon. Et puis, Chamberlain rentre à Londres. Il écrit une lettre à sa sœur. En disant sur la lettre, je crois que quand on a rencontré cet homme-là, dans ces circonstances-là, comme moi je l'ai rencontré, on ne peut que penser qu'il est honnête. Et il rentre en Angleterre. Bon, alors il faut préciser quand même que Chamberlain avait été, c'est une précision importante, hein, qu'il avait négocié depuis des mois et des mois avec Adolf Hitler et qu'il pouvait quand même difficilement reconnaître son échec. Donc, bon. Alors, on ne sait pas très bien s'il y croyait vraiment à ce qu'il écrivait à sa sœur, mais en tout cas, c'est ce qu'il lui a écrit. Et donc, une fois que Chamberlain a eu quitté la pièce, Adolf Hitler était avec ses conseillers, et notamment un aide de camp, qui est resté avec lui et qui a écrit, qui a raconté la scène à laquelle il avait assisté. Dès que la porte a été fermée, Adolf Hitler était mort de rire. Il se tapait sur les cuisses, il n'arrivait pas à s'arrêter de rigoler. Tellement le délice de la duperie chez lui était extrêmement fort. Bon, il faut savoir aussi que Adolf Hitler n'avait qu'une envie, c'était de se venger de l'Europe qui avait humilié l'Allemagne en 14. Il était militaire. Bon. Donc l'image d'Adolf Hitler en train de se taper sur les cuisses, c'est vraiment l'image du délice de la duperie. Il avait réussi à tromper l'Europe entière. Il avait réussi à repousser les négociations de paix des uns et des autres. Et il allait enfin pouvoir donner libre cours à sa vengeance. Donc il n'avait que des émotions positives, on va dire. Qu'est-ce qui fait un mauvais menteur ? Eh bien, le contraire. C'est-à-dire, grosso modo, pour aller vite, tout ce qui fait des personnalités introverties. Un introverti fait un très mauvais menteur. D'ailleurs, les introvertis sont des gens qui mentent moins que les autres. Parce qu'ils savent qu'ils vont d'emblée être perçus comme menteurs. Alors pourquoi un introverti est perçu comme menteur ? Parce qu'il a ce qu'on appelle les stéréotypes du menteur. C'est qu'il y a des stéréotypes sur le mensonge et le stéréotype principal, c'est celui-là. C'est que vous pensez que les autres vont se comporter comme vous, vous ne vous comportez pas. Un bon menteur, c'est-à-dire la majorité d'entre vous. Un bon menteur qui a envie, enfin donc un menteur ordinaire, qui a envie que son mensonge passe avec un minimum d'enjeu, il va vous regarder droit dans les yeux. C'est ce qu'on appelle le baiser du voleur, enfin ce que les Américains appellent le baiser du voleur. Ce qu'on appelle le baiser du voleur, c'est quand un gamin, je dis un gamin parce que c'est souvent comme ça que ça se passe à Marseille, dans les grandes manifestations, vous savez, quand il y a la Coupe du Monde de football, de rugby, je ne sais pas quoi, il y a tous les gens qui sont là en liesse dehors, et puis il y en a qui sont suffisamment assez couillons pour laisser des bijoux, par exemple, une boucle d'oreille, des machins comme ça. Et les gamins, ce qu'ils font, c'est exactement cette histoire de baiser du voleur, c'est-à-dire qu'ils viennent vous voir, ils s'approchent de vous, ils vous regardent droit dans les yeux, ils vous... Vous savez, c'est un peu comme K.A., mais réussi. Vous savez, dans le livre de la jungle, hein, « Regarde-moi... » Mais là, réussi, ils vous regardent droit dans les yeux, ils vous font des grands sourires, ils sont extrêmement sûrs d'eux, et puis ils vous piquent les bijoux que vous avez sur vous. Enfin, à ceux qui ont eu la maladresse de les garder. Donc c'est ce qu'on appelle le baiser du voleur. Le menteur va faire à peu près la même chose. Il va vous regarder droit dans les yeux, il ne va pas cligner des yeux, puisqu'il sait que c'est le stéréotype du mensonge, donc il ne va pas le faire. Donc vous n'allez pas transpirer, sauf si vous êtes vraiment très très émotif, très introverti, mais sinon, vous n'allez pas transpirer, vous n'allez pas chevrotter, vous n'allez pas trembler, vous avez préparé votre mensonge, donc vous allez avoir une espèce de discours comme ça, comme un ruban, sans aucune hésitation, sans aucune erreur, vous allez regarder les gens droit dans les yeux, vous allez leur sourire, mais vous n'allez pas faire tout ce que vous venez de me dire. Et personne ne le fait, sauf les introvertis. Les introvertis ont cette personnalité-là qui fait qu'ils se comportent comme ça tout le temps. C'est-à-dire que quand un introverti, vous lui posez un gros introverti, c'est-à-dire ce qu'on appelle en fait un gros timide hein, dans la vie courante, quand vous lui posez une question, il va baisser les yeux pour répondre, il va avoir des réponses courtes, il va avoir du mal à faire des phrases très longues sans bafouiller, etc., etc. Donc il a le comportement prototypique du menteur, donc il va être pris pour un menteur. Donc comme il n'est pas couillon, l'introverti, ben, il ne va pas mentir. C'est les gens qui mentent le moins, en fait. Et les pauvres, c'est eux qui en sont accusés le plus. Mais enfin, bon, ça c'est une autre histoire. Et pour terminer, donc, quelques conseils pour détecter un menteur, quand même. D'abord, est-ce qu'on peut les détecter correctement ? Oui. Hein ? Il y a moyen d'augmenter nos capacités de détection. Alors, ce qu'il faut savoir pour bien détecter un menteur, c'est que, un, nous sommes tous de très bons menteurs, vous êtes tous de très bons menteurs, puisqu'il n'y a que 18% de nos mensonges. Mais moi, je suis une menteuse, mais alors, oh, j'arrête pas. En fait, tout ce que je vous ai raconté là, c'est faux. 18% seulement de nos mensonges sont découverts. Donc, ça veut dire que nous sommes tous de très bons menteurs. Hein ? Par contre, nous sommes de très piètres détecteurs de mensonges. On est très, très mauvais. Or, les gens pensent le contraire. Ils pensent ne pas être très bons menteurs et être de bons détecteurs. C'est exactement le contraire. Nous sommes tous, vous êtes tous de très bons menteurs, mais de piètres détecteurs. Alors, pourquoi on n'est pas des bons détecteurs ? Parce qu'en général, on n'est pas méfiant, ce qui est plutôt rassurant. Nous ne sommes pas des gens méfiants. Hein. On ne passe pas notre temps, et puis on ne peut pas, on ne passe pas notre temps à se dire « Oh là là, là là là, est-ce qu'il est en train de me mentir ? Est-ce qu'elle est en train de me mentir ? Qu'est-ce qu'elle est en train de me dire ?» etc. Sinon, ça serait assez insupportable. D'autre part, il nous arrive très souvent de préférer ne pas connaître la vérité. Ça nous arrive très très souvent de préférer en savoir le moins possible. Et enfin, les stéréotypes du menteur qu'on vient de voir à l'instant sont tellement... ils sont tellement ancrés chez vous que si vous ne vous en débarrassez pas, évidemment, vous avez un mal fou à détecter les menteurs. Alors, un conseil rapide pour bien détecter un menteur, c'est un, d'être un minimum soupçonneux. Si vous n'êtes pas soupçonneux, si vous ne pensez pas qu'un tel ou un tel vous ment, il n'y a rien à voir. Circuler, il n'y a rien à voir parce que vous n'allez pas chercher à détecter quelque chose qui n'existe pas. Donc un, c'est d'être un petit peu soupçonneux. Et deux, un conseil pour réussir de manière en plus très agréable à détecter un menteur, c'est un conseil de Sacha Guitry. C'est de faire croire à un menteur qu'on le croit. Alors c'est très très agréable, très jouissif, donc c'est très bien pour vous tous ici. Et c'est un excellent moyen de réussir à trouver, à mettre en porte-à-faux la personne qui est en face. Il va évidemment se prendre les pieds dans le tapis si vous faites ça, et il va automatiquement faire quelque chose qui va, à un moment donné, vous donner la puce à l'oreille. Voilà. Il est 9h, on bouffe ?
Danse, danse, ma jolie danse. Danse, danse, mon esprit danse. Celui qui danse chemine sur l'eau et à l'intérieur une flamme. Que ce soit de l'économie, du virtuel, de l'astronomie, c'est qu'on n'est pas des rigolos. On apprend tout dans nos bistrots.
Cette émission vous est offerte par le Théâtre Éprouvette et l'Abbaye du Jouir. Vous pouvez la réécouter sur le site internet www.théâtreéprouvette.fr.
Ensemble est bien plus beau grâce à cette université des bistrots. Danse, danse, ma jolie danse, 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 mon esprit danse. Celui qui danse chemine sur l'eau et à l'intérieur d'une flamme.